Radio Django. Culture.
Voilà, on attaque la dernière rubrique de cette soirée pour le grand direct. Ce sera avec toi, Jean-Luc. Nous parlons de Carnet d'Ukraine.
Oui, en fait, c'est surtout Stéphane Menanzi qui a été rencontré Emmanuel Graff, qui est un documentariste franco-suisse, hein, qui a commis plusieurs documentaires qui relatent la situation des ouvriers en Lorraine, hein, suite à la désindustrialisation, que c'est compliqué à dire.
Oui.
C'est dans les années 90. Et il vient de réaliser donc ce film, Carnet ukrainien, qui est un film assez particulier parce qu'il y a des éclairages, quatre éclairages différents, originaux. En fait, il crée des doubles relations, des choses en écho. Et Stéphane Menanzi l'a rencontré pour certains, voilà, pour approfondir un petit peu comment il a voulu dire et ce qu'il a voulu dire dans son film.
Eh bien voilà, eh bien on écoute Stéphane Menanzi.
En 2014, le monde entier découvrait l'existence de l'Ukraine, existence d'ailleurs vite menacée par la suite. Or, si mon fils a un papa français, lui est né en Suisse et sa maman est ukrainienne. Ce film, Carnet ukrainien, est donc celui d'un triple regard, de la Lorraine à l'Ukraine, en passant par le lac Léman. Quatre chapitres, quatre situations, quatre regards croisés possibles, où l'Ukraine est chaque fois au centre.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Stéphane.
Tu es déjà venu l'année dernière au micro de Radio Django nous parler de ce documentaire sur lequel tu travaillais encore à l'époque. Il est à présent disponible en DVD. On précisera plus tard de quelle manière les gens qui n'ont toujours pas eu la chance de le visionner peuvent se le procurer. J'aimerais donc ce soir aborder un peu plus spécifiquement avec toi certains aspects, à commencer par sa construction en quatre parties de longueur variable.
La durée de ces quatre chapitres est assez inégale, ça peut paraître un peu surprenant, c'est simplement dû au fait que le quatrième chapitre, donc celui le plus important au niveau même de la quantité des sous-thèmes, le Maïdan, les famines staliniennes, l'exil des jeunes en Ukraine et le rapport avec l'Europe occidentale, c'était un chapitre avec des gros thèmes, alors que les trois premiers chapitres sont des chapitres plutôt monothématiques, où il y a une fois une grosse affaire dans chacun. Donc, effectivement, le quatrième et dernier, il fait la moitié du film, quoi. Il fait 40 minutes.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, à quelque part, dans le dernier chapitre, quand tu parles de l'Holodomor, ça rejoint aussi la thématique du premier chapitre avec le charnier au camp de Bont-Saint-Jean.
Ce charnier de Bont-Saint-Jean à côté de Metz, donc en Lorraine, en Moselle, c'est un charnier très très peu connu, qui est pourtant le plus gros charnier de France, puisqu'il y a 22 000 corps qui sont sous terre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on en parle, c'est que c'est une affaire qui est connue depuis relativement récemment. Et il rejoint, comme tu le dis, les charniers staliniens de 1932-33, qui sont des choses assez terribles, hein, puisqu'il y a eu entre 5 et 7 millions de morts. Les historiens se battent un peu pour les chiffres, c'est peu important. Famine organisée par le régime stalinien pour éliminer ce qu'ils appelaient les bourgeois paysans ukrainiens. C'était en fait surtout pour éliminer toute trace d'ukranité et de particularité ukrainienne. Un génocide qu'on connaît peu en Europe occidentale parce que tout simplement l'information a été bloquée jusque dans les années 90. Et puis après les années 90, y a encore une grosse partie des archives qui sont à Moscou. On ne connaît donc que les archives qui ont pu rester en Ukraine.
Est-ce que tu connaissais déjà donc le site consacré à l'Holodomor ?
Alors pour moi, l'Holodomor, c'était une énorme surprise. Donc j'ai 50 ans, j'ai découvert l'existence d'un fait historique pareil sur le tard. À 46-47 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Ukraine, j'avais entendu parler de ça, mais comme énormément d'Européens, j'en savais rien du tout. Et quand on découvre et qu'on creuse, oh là là, le mauvais jeu de mots, on est effaré par l'ampleur des choses, par les motivations politiques, par la façon dont ça s'est fait, hein, et puis par la chape de silence qu'il y a là-dessus, et aussi également par la douleur, presque un siècle après, que les gens à qui on a transmis ces affaires porte sur eux. Enfin, on a interrogé une vieille grand-mère qui est dans le film, mais on en a vu d'autres qui sont touchés comme si ça s'était passé hier, quoi. Ça a été violent, comme moi dans ma région d'origine, l'Alsace-Lorraine, comme peuvent l'être les souvenirs des deux guerres mondiales.
Est-ce que c'était déjà prévu avant ton départ en Ukraine de parler de ce sujet ?
Alors, l'histoire du chapitre 4, c'est, j'avais dit à Anna, ma femme, je prends une très bonne caméra, je te suis, et on verra en fonction des personnages que tu vas rencontrer, les hasards des choses, voilà. Donc il y a des tournages qui étaient prévus, comme avec sa mère, son cousin, et d'autres, où le hasard a joué son rôle à plein. Il était prévu qu'on aille voir cette grand-mère, mais on ne savait pas qu'il y avait un monument Holodomor là. C'est juste un événement rocambolesque qui nous a fait rester pendant une heure à une petite place en bas du village, qui a fait qu'à un moment donné, en restant une heure à un endroit, on a levé les yeux et on a vu un petit panneau où c'était marqué Holodomor. Heureusement que je lis le cyrillique, parce que du coup j'ai vu ça et j'ai dit à ma femme, mais t'as vu, il y a un panneau Holodomor là. Et elle l'a regardé, elle a dit, ah oui, je ne savais pas que dans le village de ma vieille amie, il y avait un monument et les choses s'étaient passées. Donc, on s'est regardé, on a dit, mais c'est extraordinaire. Vous voulez parler de cette famine, mais pas de manière artificielle, justement.
Quel est donc cet événement rocambolesque qui t'a permis de découvrir ce panneau?
On a failli arrêter le film parce que ce jour-là, on a perdu la valise avec tout le matériel électrique, les micros, etc. Donc tout le matériel de la caméra dans le bus qui nous avait amené à ce village. Et il a fallu donc qu'on attende que le bus revienne pour récupérer la caméra. Et pendant ce temps-là, donc on a fait que ce qu'on pouvait faire à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on a regardé le paysage. Et en regardant le paysage, à un moment donné, je suis tombé donc sur le petit panneau où c'était marqué famine 1932-33. Et tout est parti de là et on a passé une journée lourde, chargée d'histoire et d'émotions, mais extrêmement, extrêmement intéressante.
C'est ce qui s'appelle avoir de la chance dans son malheur.
Oui, et une partie des documentaires fonctionne comme ça, quoi. C'est pour ça que quand je suis parti en disant à Anna, écoute, on verra bien ce qui se passe au détour des gens que tu rencontres, je savais qu'il se passerait des choses, je savais pas quoi. Et ça a été un hasard ultra positif. Et moins c'est organisé, mieux c'est.
Quand tu as filmé le monument, est-ce que tu avais en tête ce que tu avais déjà tourné en Lorraine au camp de Bans-Saint-Jean? Parce que je trouve que le filmage, la façon dont tu filmes la forêt est vraiment très différente entre les deux chapitres.
Oui, le camp de Bans-Saint-Jean est différent parce que c'est un camp qui est organisé par justement des historiens amateurs depuis très très peu de temps. Et on l'a filmé avec des historiens qui voulaient absolument tout raconter de ce camp-là. Et on s'est dit, c'est un lieu qui doit garder une part de mystère. Donc on l'a aussi beaucoup filmé avec des sous-entendus visuels, c'est-à-dire on a filmé des traces, des choses, etc. etc. L'Holodomor, cette forêt-là, on l'a filmé différemment parce que la lumière est différente et ça peut paraître bizarre, mais les sols sont différents. C'est-à-dire qu'il y a des reliefs sur le sol de la forêt de ce village ukrainien qui sont des reliefs simplement dus aux gens qu'on a mis à cet endroit-là. C'est-à-dire, ça peut paraître bête, mais le sol du camp français a été égalisé. Tandis que le sol ukrainien est resté exactement le même depuis les années 33, c'est-à-dire qu'il y a des bosses qui correspondent simplement à des corps qu'on a mis là. Donc ça fait deux forêts qui ont des points communs, mais aussi de lourdes différences, quoi. En plus, on a filmé le parcours de deux générations, même trois, puisqu'il y a la grand-mère, ma femme et le petit Roman qui avait 11 mois. Donc on suivait un trio, alors qu'au Bans-Saint-Jean, on a filmé une rencontre entre une handballeuse ukrainienne et un historien lorrain, un tout petit peu différent, quoi. Mais globalement, très bien de l'avoir remarqué, il y a une espèce de boucle entre deux terrains qui ont des similitudes. Ouais.
Juste pour terminer, quelles sont les possibilités de diffusion pour un film pareil qui dure 90 minutes?
Alors ce film, il a été fait dans plusieurs objectifs. Bon, moi, à titre personnel, comme réalisateur, l'objectif le plus important et celui qui m'intéresse le plus, c'est de faire des projections, des festivals ou des projections particulières. Et après, avoir des débats avec les gens, etc. Ça, c'est ce que je fais depuis une vingtaine d'années précédemment avec mes films sur le milieu ouvrier en Lorraine et maintenant avec cette problématique plus pays de l'Est, on dira. Évidemment aussi, le fait de vendre des DVD pour ce qui concerne Carnet ukrainien, ça se fait depuis le mois de décembre parce qu'il y a des gens qui achètent ces films pour les voir et c'est aussi quelque part aussi des objets. La production, bien entendu, aimerait qu'une télé ou des télévisions achètent à ce genre de films. On peut ratisser un peu plus large, évidemment, à la télévision que dans des projections ou des festivals où les gens viennent voir une chose particulière. Tout ça est tout à fait récent, donc on est en train de travailler là-dessus, aussi bien en Suisse, en France qu'en Ukraine. Et on sait qu'en Ukraine, une ou deux télévisions seraient intéressées.
Mais par contre, comme tu l'as signalé, donc actuellement, il existe un DVD. On peut donc l'acheter.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de vrai lieu de vente. Il faut m'écrire à moi.
Et on t'écrit où?
On m'écrit à egra2f@worldcom.ch.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci à toi.
Oui. Stéphane Venanzi pour parler de Carnet ukrainien, film d'Emmanuel Graff.